Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Je vais vous parler un petit peu des épreuves. Il y a plusieurs sortes d'épreuves. Il y en a qui sont nécessaires. Puis il y a différentes façons de les voir. Je vais juste vous amener deux petits passages. Job 23, 10. Job, il parlait avec ses amis, je pense. Là. En tout cas, il dit, « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. » Parce que Job, c'est un homme qui était intègre, qui était droit. L'autre, c'était 2 Pierre 2,9. Ainsi donc, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et gardé les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. Moi, cette année, j'ai été témoin de quelque chose dans mon travail que j'ai vu. Je ne sais pas si Juliane a... Oui, bon, et voici un champ de maïs. Moi, je vais vous donner un petit cours en agriculture, ça ne sera pas long. Le maïs, ce printemps, je ne sais pas si vous avez vu, il n'a pas plu pendant 2 mois de temps. Puis le maïs est une plante tropicale. Il aime la chaleur puis il aime l'eau. Mais le maïs, qu'est-ce qu'il fait quand il ne pleut pas? Il fait des racines. Il pousse par en bas. Il va chercher l'eau plus profond. C'est une plante qui est vraiment très résistante. Puis, quand il s'est mis à pleuvoir, mettons que le maïs, il était, mettons, on pourrait dire 1 mois en retard dans l'eau qu'il pouvait avoir. Quand il s'est mis à pleuvoir, il a pris plus d'eau que qu'est-ce qu'il prendrait en temps normal. Parce que moi, je vois les champs de maïs, là, à cette heure, là. Puis je pense que même, il y a beaucoup de fermiers qui ont resté surpris. Le maïs, il a pris tout son retard, puis même, il est en avance. L'ensilage de maïs va se faire dans le mois de septembre, puis le battage, probablement, dans le mois d'octobre. Il y a 1 mois d'avance. Puis il va avoir du rendement. Le maïs, quand il est prêt à récolter, le plant, il est mort, mais les grains sont tous après. Le plant, il est mort, mais il est debout, puis il est solide quand même. Les grains sont tous après, quand il est prêt à battre. Fait que, compare ça un peu à un croyant quand il y a des épreuves, plutôt que de s'écraser à terre souvent, là, ben, il apprend dans ses épreuves. Il apprend, puis il grandit là-dedans. Puis même... ça peut porter du fruit, d'avoir des épreuves plus tard. Fait que là, après ça, un champ de soya. Puis, merci beaucoup, Juliane, hein, pour... Le soya, lui, qu'est-ce qu'il a fait ce printemps? Quand il a manqué d'eau, il poussait pas. Lui, il poussait pas. Il a pas fait de racines. Il a pas rien fait. Puis là, quand l'abondance est arrivée, il a poussé. Il est devenu trop haut. Ben, il n'est pas tombé encore, mais c'est parce que le soya, quand il est prêt à battre, lui aussi, le plant est mort puis les grains sont après. Ben, c'est ça. Ben, le soya, quand il est prêt à battre, si le plant est trop haut, des fois, il vente puis il mouille un peu. Le plant, il casse puis il s'écrase à terre. Puis là, il est plus dur à battre. La batteuse n'est pas capable de le poigner. Fait que là, ça me faisait penser, ben, quelqu'un, quand il a une épreuve, puis il s'écrase à terre, puis il bouffe pas. Il attend que l'épreuve passe. Puis à un moment donné, ben, quand que l'abondance arrive, surtout ici, on sait un peu c'est quoi. On est dans un pays d'abondance. C'est facile ici de... oh yes, m'aller m'acheter un Mustang, puis je sais pas quoi. Puis, en tout cas, on se paye la traite. C'est bien le fun de se payer la traite. Avoir des racines profondes, puis porter du fruit, ça me faisait penser aussi qu'à la fin de notre vie, il va y avoir une récolte qui va se faire. Quand que Jésus il va revenir, là, c'est là qu'on va voir qui a planté ses racines plus creux, puis qui s'est laissé vivre, mettons, là, aussi, là, toutes ces affaires-là. En tout cas, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Fait que j'ai trouvé ça bien le fun de vous apporter ça à matin, puis je reste surpris de voir que des fermiers, que ça fait, je sais pas moi, 30 ans, 40 ans qu'ils ont leur ferme, puis ils restent encore surpris. Ben nous autres, on sait que c'est Dieu, mais eux autres, ils disent pas ça, mais ils restent encore surpris de voir qu'est-ce qui peut se passer sur leur champ, dans leur école, dans leurs affaires. Le comportement de toutes ces affaires-là. Fait que merci beaucoup, puis merci Seigneur pour... merci Seigneur parce que moi, en tout cas, avec la terre, je vois que vraiment, t'es là. Je vois encore des miracles se passer. Je vois encore du monde qui reste surpris par qu'est-ce que tu peux faire, Seigneur. C'est quand même toi qui mène tout. C'est quand même toi qui contrôle la nature, toutes ces affaires-là. Merci Seigneur pour toujours prendre soin de nous autres. Puis passez un bon dimanche. Amen.
De vous voir en chair, en personne. Hein? C'est juste valeur qu'on ne puisse pas se donner un gros câlin, mais on s'en donne un dans notre cœur. Hein? C'est un micro, es-tu allumé?
Ah oui, il est vert.
1, 2, 1, 2, bonjour. Ah! Là, c'est mieux? Hein? Tu as un bon test? Excellent. C'est beau. C'est beau comme ça? 1, 2, 1, 2, on s'entend bien? Des fois, ma femme, elle me dit souvent, « Richard, parle pas trop fort. » Je suis juste à côté de toi, tu n'es pas en train de prêcher. Quand j'étais à ETBQ comme jeune prédicateur en formation là, de 24 à 28 ans, un peu avec la nervosité et le stress quand on commence, mes professeurs me disaient souvent, « Richard, c'est bon ce que tu dis, mais parle plus fort! » Quand j'ai commencé le ministère à Shawinigan, j'avais un bon monsieur, monsieur Cloutier, qui, quand je suis arrivé, il avait 75 ans, puis il dit, « T'es pas pire, le jeune, mais j'ai de la misère à t'entendre. » Il dit, « Parle plus fort. » Puis à la fin, X années après, il dit, « Tu t'es amélioré. » Il dit, « Tu parles plus fort, je t'entends bien. » Fait que des fois, il faut s'ajuster. Hein? On prend des habitudes et à un moment donné, ça vient qu'on faut... Pour savoir doser les situations. Première image, je dirais pas la semaine dernière, mais je vais dire il y a 2 semaines, au dernier enseignement, on a vu le début de l'enseignement de Philippiens 4, 6 à 9. Et le thème, c'était comment obtenir la paix, mais là 2 semaines, on s'est concentré sur le milieu, sur le centre. Et on a vu spécialement les fausses croyances et comment croire à la vérité, comment délaisser ses fausses croyances. Et le but de croire à la vérité et de dire non, non aux fausses croyances, c'était quoi le but principal de ça? Est-ce que vous en souvenez? C'était d'avoir la paix. Est-ce que vous vous souvenez du sandwich de la paix? Un principe, quand on voulait, vous allez rire, là, c'était un sandwich, mais c'est vraiment un principe d'herméneutique puis d'homilétique de comment enseigner la parole. Et au verset 6 et 7, ça parle énormément de la paix, verset qu'on va voir ce matin. Et au verset 9, ça nous parle de Dieu, le Dieu de la paix qui va être en nous. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est comme le jambon dans le milieu. C'était l'objet de nos pensées. Donc là, on s'est attardé au centre. Là, on va voir l'ensemble. C'est un sandwich au jambon. C'est comment avoir la paix de la part de Dieu. Ce matin, on va parler de la paix du cœur. On va parler des inquiétudes et des soucis qui peuvent nous priver de la paix. On veut voir comment pouvoir trouver et retrouver cette paix qui est si chère à Jésus et qui est indispensable pour nous. Et tout le long, en préparant le message, une des choses qui me venait à l'idée, c'est comment les frères et sœurs de l'Église, comment les frères et sœurs qu'on connaît là, dans d'autres milieux dans la province de Québec, comment chacun d'entre eux a vécu la COVID. Hein? Il y en a qui disent « Oh, moi, ça a bien été, ça a été juste un bon petit repos, tout a été sous des roulettes. Gloire à Dieu, tant mieux. » Mais il y a des gens pour qui la période, la COVID, du confinement et ensuite le déconfinement a été une grande source de stress, une grande source d'inquiétude. Il y en a qui, par la grâce de Dieu, on peut passer à travers cette inquiétude-là, mais il y en a d'autres pour qui ça l'a fait des ravages profonds. Et nos pensées, nos prières sont avec tous les frères et sœurs pour qui ça peut être difficile aussi, avec tous ceux de notre entourage, connaissances, famille, pour qui ça a été un temps difficile. Et la parole de Dieu, on peut vraiment appliquer ces vérités-là en tout temps et spécialement pendant une épreuve. On veut voir ces deux fameux versets. Et ces versets-là sont un classique. Si vous venez me voir, dire Richard, quel verset tu me donnerais là, pour avoir la paix? Je crois que c'est mon verset numéro un, ces deux versets-là. Il y a peut-être un Pierre 5, 7. Hein, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, on va prendre la paix de lire le passage principal de ce matin. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » On a toute une personnalité différente. Et moi, de par mon tempérament un peu sanguin, optimiste, qui voit le bon côté de la vie, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas grand-chose qui m'affecte. Hein? Pendant à Shawinigan, j'ai été dans un petit bureau pendant 14 ans avec une toute petite fenêtre. Et quand je travaillais à mon bureau, j'avais même pas de vue. J'avais ma fenêtre en arrière, j'avais trois murs. Puis, hey Richard, veux-tu prendre le gros bureau qui est disponible? Oh non, je suis bien. Tu sais, ça m'affecte pas. Quand il arrivait la COVID, oh ben tu sais, on compose. Mais peu importe notre tempérament, il y a toujours un temps où, là, ça va au-delà de ce qu'on peut humainement supporter. C'est pourquoi on a besoin de trouver notre paix en Dieu. On a besoin de savoir qu'il y a des situations que Dieu va permettre dans nos vies, qui font partie de la vie, qui vont un peu étirer notre élastique un peu plus que ce là où on est confortable, et là, on n'aura pas le choix. Donc, si vous êtes un peu comme moi, qui dit, « Ah, moi, l'inquiétude, j'en ai pas. » Je me souviens, quand j'étais tout jeune chrétien, un an de vie chrétienne, j'entendais un message sur l'inquiétude, puis il y avait toute une série. Puis après le premier message, je disais, « Sincèrement, Seigneur, j'en ai pas d'inquiétude. » Et là, j'ai vécu une des pires semaines de ma vie au niveau d'inquiétude. Et là, quand je suis revenu le dimanche prochain, oh, Seigneur, merci. Peu importe notre tempérament, notre personnalité, il y a toujours des situations où là, on a besoin de trouver la paix en toi. Quand on parle de paix dans le cœur, et c'est le sujet de ce matin, il faut se demander quelle sorte de paix on veut avoir. Et on peut avoir, on peut désirer la paix circonstancielle. On regarde notre situation, tout est beau, santé, finances, aucun problème, famille, tout est stable, travail, c'est juste positif, le ciel est bleu, aucun nuage menaçant à l'horizon. On vit tous ce genre de paix, et quand on la vit, on croit que ça devrait toujours être comme ça. Soyons pas, ne nous sentons pas coupables de vivre cette paix-là quand elle passe. Prenons-la et disons, merci Seigneur, parce que tu éprouves pour un temps, mais tu délivres, et présentement, je te rends grâce que mes circonstances sont bonnes. Mais c'est pas ce genre de paix-là que nous parle le passage. On peut aussi avoir une paix relationnelle, une absence de conflit, personne ne nous en veut, rien à régler. Hey, ça fait du bien des fois, hein? Une paix émotionnelle. Je me sens bien, sans inquiétude, sans peur. Moi, j'aime bien, j'ai appris dans ma vie à mettre un thermomètre dans mon cœur pour dire, « Hey, il fait chaud, il fait froid, c'est quoi la température? Hey, sais-tu, si je mets un test d'algicide, hein, sais-tu acide ou basique? » D'apprendre à aller chercher l'information de comment mon cœur se sent. Puis si notre cœur, au niveau des émotions, au niveau des sentiments, ça dit, ouais, c'est calme, c'est tranquille, tant mieux. Ce passage-là et l'ensemble du Nouveau Testament nous offrent quelque chose de plus grand que ce genre de paix-là. Ça l'inclut, mais ce qu'il nous offre, c'est la paix de Dieu. Première expression, ne vous inquiétez de rien. En lisant beaucoup sur le sujet au fil des ans, on peut en arriver à dire, écoute, la Bible me dit d'obéir à la parole, puis une des choses qu'il faut obéir, c'est de ne pas s'inquiéter, puis je m'inquiète. Donc, ah Seigneur, je suis fautif, je veux te confesser, te demander pardon parce que je ressens de la peur. Non, je pense que là, on va trop dans une avenue qui est pas celle que Jésus désire. Avoir peur, c'est normal. Bien des fois, c'est bien d'avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est un état d'alerte, une protection contre le danger, hein? Les proverbes nous disent souvent que le sage voit le danger, puis fuit, puis l'insensé, il voit le danger, puis il se garoche direct dedans. Hein, on se souvient des témoignages de touristes québécois en Afrique qui sortent du camion, puis il y en a qui sont fait manger par le lion dans le safari, puis il y en a d'autres qui ont passé proche. Ils voyaient le danger, puis ils ont dit, voyons donc, c'est un gros chat qui est habitué de voir du monde. D'avoir peur, parfois, c'est sain. On parle ici de prudence et de sécurité. Et le passage ici ne parle pas de cette peur ou ce genre d'inquiétude, mais de l'anxiété qui demeure. Et ce qui est intéressant de la peur, l'angoisse, l'anxiété, c'est que la peur est présente quand normalement il ne devrait pas avoir de peur. Ou après avoir eu peur, une fois que l'alarme est baissée, que le danger est écarté, la peur, l'anxiété devrait baisser, disparaître, mais elle peut demeurer. Notre Dieu ne veut pas que nous demeurions dans la peur. Il veut que, après cette émotion de peur qui pouvait être un aspect de prudence, il veut qu'on retrouve la paix en lui. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que l'inquiétude est un péché? Hein? Selon les livres que vous lisez, il y avait un livre qui disait, j'ai une bonne nouvelle pour vous, l'inquiétude est un péché, parce que si vous vous inquiétez, vous avez juste à demander pardon, puis ça va être réglé. Selon moi, c'est un peu simplifié, là, le cœur, les valeurs de Jésus, les valeurs de paix, de compréhension, de grâce. Il me semble qu'on met tout ça dans un petit sac, puis on dit, mettre tout ça dans un sac, puis on va mettre le sac au vidange, puis tout va être réglé. Il est certain que notre Père céleste ne veut pas qu'on s'inquiète. Son désir le plus cher, c'est qu'on ait la paix en lui. D'ailleurs, celui qui révèle le Père, Jésus, n'a pas cessé de dire aux gens de ne pas s'inquiéter. Hein? Souvent, Jésus a dit, « Ne craignez point, n'ayez pas peur. » Il a rassuré ses disciples en leur disant qu'il était là et qu'il allait prendre soin d'eux. Matthieu 6, 25, 33 nous dit, « Ne vous inquiétez pas pour le manger, pour le boire, puis ainsi que les autres besoins. » À plusieurs reprises, Jésus constamment disait, « N'ayez pas peur. » Jésus ne veut pas qu'on soit anxieux. Il ne veut pas que la peur prenne le contrôle de notre vie. Jésus disait ça parce qu'il savait que c'était le propre de l'être humain de s'inquiéter. Et il encourageait les gens à ne pas s'inquiéter. Ne craignez point. Pourquoi avez-vous peur? Je vous donne un exemple. Que fait un père ou une mère devant son enfant qui pleure? Hein? Ses parents-là vont lui dire doucement, « Pleure pas, je suis là, c'est correct. » Hein, ça va bien aller ou ça va s'améliorer. Un parent serait très malvenu de crier après son enfant et de dire, pleure plus, arrête tout de suite, je veux pas que tu pleures, obéis-moi. Ce serait pas prendre soin des besoins de l'enfant. De la même façon, en faisant un parallèle, notre Dieu ne veut pas que nous nous inquiétons, pas parce que c'est une offense à un Dieu saint, hein, un Dieu présent, un Dieu qui fait qu'on n'a aucune raison de s'inquiéter, puis je ne veux pas que tu aies peur, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Non, ce n'est pas dans cette optique-là. C'est parce qu'il nous aime, puis il veut qu'on aille la plupart du temps un cœur en paix. Comme enfant de Dieu, il ne faut pas s'habituer à vivre dans la peur, avec la peur. Et notre Père céleste veut nous donner et nous redonner la paix. Autre expression de ce verset 6 et 7, tellement riche, Une paix qui surpasse toute intelligence. Quelle belle expression! Ça veut dire que c'est une paix qui va au-delà de l'entendement. C'est pas fondé sur la logique, sur la raison. Tu regardes sa situation, tout va bien, hey, c'est correct, c'est normal que je sois en paix. C'est d'être en paix dans une situation où tu dis, je devrais m'inquiéter, je devrais m'arracher les cheveux, je devrais être en train de me tourmenter. Et la paix de Dieu fait en sorte que j'ai une paix qui est surnaturelle. Une paix pas parce que c'est logique, pas parce que c'est normal de ne pas s'inquiéter. Moi, en général, je veux être en paix parce que le danger a disparu, parce que la source de mon inquiétude a disparu. La paix qui surpasse toute intelligence est la paix grande et profonde qui n'aurait pas raison d'être là, mais elle est là et sa source est en Jésus. Quelques versets qu'on connaît bien, hein? Jésus qui, dans son discours avec ses disciples de Jean 13 à 17, dans le dernier souper avant son arrestation, sa crucifixion, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et il dit, « Je ne donne pas comme le monde donne. » Ce n'est pas le même genre de paix. Un petit peu plus loin, en Jean 16, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais moi, j'ai vécu le monde. Donc, Jésus dit à ses disciples, à ses apôtres qui sont là avec lui, je vais être avec vous. Vous allez passer des épreuves, vous allez être persécutés. Des tribulations, des difficultés lié au fait que vous prenez position pour moi. Mais je vais être là. J'ai vécu le monde. Je vais être avec vous. Et je vais vous donner la paix. Je vais vous donner ma paix spéciale, spirituelle. Jacques 1-2 nous parle d'un sujet, de faire un sujet de joie, les diverses épreuves auxquelles on est confronté. Quand on a différentes épreuves comme ça, humainement parlant, ça nous rentre dedans, puis on peut garder une certaine paix, un certain contrôle, pas trop tomber en panique, mais de faire un sujet de joie, de considérer comme un sujet de joie, il y a seulement Dieu qui peut faire ça, seulement son intervention. Est-ce qu'on veut vivre déjà le ciel sur la terre ou vivre sur la terre avec des moments de ciel. Et notre perception de la vie chrétienne peut nous priver de la paix. Si on s'attend qu'une fois qu'on a le Seigneur, il ne nous arrivera rien, personne ne va venir nous déranger, qu'on a une perception d'une paix circonstancielle, d'avoir que Dieu doit mettre sur notre chemin toujours des circonstances, des situations favorables, agréables. Et ça, Jésus nous avertit, ça n'arrivera pas. En tant que disciple, parfois il y a des gens qui n'apprécieront pas ton style de vie, qui n'apprécieront pas ta prise de position pour Jésus, et tu vas vivre du rejet, tu vas vivre la haine, tu vas vivre un mépris, parfois pas dit ouvertement, mais tu vas le ressentir. Jésus, à travers toutes ces choses-là, veut donner sa paix. Expérimenter la paix de Dieu. On a l'expression, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. On veut installer la paix. On veut vivre en paix. On veut marcher dans la paix. Ensuite, dans l'épreuve, une fois que la paix est installée, une fois qu'on est dans l'épreuve, on veut préserver. Et c'est la paix de Dieu qui va garder nos cœurs en paix, même quand ça va brasser, quand il va y avoir des secousses. Et à la fin de la tempête, on va être capable de retrouver la paix, de retour au calme, jusqu'à la prochaine épreuve. La paix doit devenir un mode de vie en tant que croyant, un mode de pensée. C'est pour ça qu'on doit être alerte à nos états d'âme, alerte à faire comme le psalmiste qui ouvre son cœur, qui dit « Seigneur, tu vois comme je suis troublé, tu vois comme je suis accablé, mais ma sécurité est en toi. » On a besoin de ne pas juste mettre la couverte pour cacher les choses. On n'a pas juste besoin de garder le couvercle là, quand ça veut bouillonner puis déborder. On a besoin de regarder ce qui se passe dans nos cœurs pour avoir la paix en Jésus. On le sait et on l'expérimente tous. On veut que la paix vienne d'un changement dans nos circonstances. On veut enlever ce qui nous prive de la paix. Et ça, c'est la paix de Richard. Ça, c'est ma paix humaine à moi. Enlève le problème, puis je vais enfin avoir la paix. Ça, c'est la paix logique. La paix de Dieu, celle que donne Jésus, ne vient pas d'un changement de circonstances extérieures. Jésus ne donne pas un coup de baguette magique pour tout régler les problèmes. La paix de Dieu se passe dans notre cœur et elle est surnaturelle. On aurait encore toutes les raisons de s'inquiéter, mais tout à coup, on est venu dans la présence de Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé et là, on retrouve cette paix. Comment se l'approprier? C'est facile parce que ça ne dépend pas de notre force à nous, de notre capacité. Ce n'est pas juste de se raisonner, de calculer, de voir, puis de mettre des stratégies ou de voir des scénarios plutôt positifs, de dire « ça va bien aller ». C'est facile parce que la puissance, elle vient de Jésus, c'est lui qui la donne. D'un autre côté, c'est difficile parce qu'il faut se l'approprier dans le cœur par la prière. Il va y avoir un combat entre toi et Dieu. Il va y avoir une tempête d'émotions. Hein? Dans le verset, ça dit de venir dans la prière et qu'est-ce qu'il va y avoir? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières avec des supplications. Tu ne fais pas juste prier d'une façon douce, tranquille. Il va y avoir des supplications, il va y avoir un combat, il va y avoir des échanges émotifs avec ton Dieu pour lui dire comment c'est difficile pour toi. Plus le fardeau est grand, plus intense sera la prière. Plus ça va brasser. C'est notre part. Faire connaître notre besoin à Dieu. Des supplications, des actions de grâce. Verset que j'ai dit tantôt, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » On a besoin de réaliser que les fardeaux sont là. On a besoin de venir à Jésus. Puis de même si, « Non, Jésus, je ne peux pas te donner, il faut que je m'en occupe, puis je ne sais pas comment, puis c'est là, puis je ne peux pas l'enlever. » On a besoin, par la foi, de faire ce pas. De le donner à Jésus, de dire « Jésus, c'est trop grand, j'ai essayé, je ne suis pas capable de le faire par moi-même. » Le Dieu, hein? La sandwich, c'est le verset 9 à la fin. « Le Dieu de paix sera avec vous. » Le Dieu, la paix que Dieu nous offre vient de la présence même de Dieu. Et elle s'approprie, on l'approprie, on se la procure par la foi. Ça veut dire qu'on a besoin de venir à Jésus d'une façon concrète. De savoir, Jésus, tu es là. Je prends conscience de ta présence et je décide de venir devant toi. On va lire le passage de Matthieu, Matthieu 8, versets 23 à 26, et c'est nos disciples qui étaient des pêcheurs émérites, habitués à la navigation et aux vagues et à tout ce qu'il faut. Et je suis allé sur la mer de Galilée, là, où ils étaient, un assez grand lac, hein, 20 kilomètres par environ 10-12 de large, mais entre des montagnes. Et même les gens qui étaient là présents disaient, c'est tranquille, là, mais quand il y a de la vague, quand il y a de la tempête, là, ça brasse. Donc, Matthieu 8, versets 23 à 26. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Quelle belle image face à nos inquiétudes! Jésus est là, il est bien présent dans la barque, mais il dort. Il est là, mais il ne semble pas être conscient. Il ne semble pas se préoccuper de la situation. Nos inquiétudes et nos peurs sont liées directement au fait que nous croyons que Dieu dort. Dieu est présent, Dieu est là, on sait que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde d'une façon générale, mais il ne semble pas être présent, il ne semble pas se préoccuper d'une façon particulière de notre situation, et on peut dire, c'est comme si tu dormais dans la barque. Si Jésus était présent, vigilant, on pense qu'il n'y aurait pas de tempête, parce que aussitôt que l'épreuve, la difficulté arriverait dans nos vies, on dit, Jésus va intervenir, il va empêcher ça. C'est révélateur du genre de paix qu'on veut. Et ça, je m'identifie, moi, le premier. On veut qu'il ne nous arrive jamais rien. Si j'ai à choisir entre l'épreuve, puis ce que Dieu veut faire dans ma vie à travers l'épreuve, et pas d'épreuve, et me priver de cette petite croissance-là, je vais du côté de la facilité. Moi, je vais choisir B, là. Non, je vais laisser faire l'épreuve. Jésus aurait dû être éveillé et faire le calme dès la première vague, dès le premier coup de vent. Ça, c'est notre façon à nous de penser, humainement parlant. Mais Jésus ne veut pas empêcher les vents et les vagues dans notre vie. Il veut qu'il y ait des tempêtes pour les apaiser, pour qu'on apprenne à se procurer la paix, sa paix, la paix qui surpasse toute intelligence. Quand Jésus était dans la barque, même s'il dormait, il était là. Et la présence de Jésus n'a pas suffi à procurer la paix aux disciples, et on les comprend, et c'est la même chose pour nous. Savoir avec certitude que Jésus est présent, d'en prendre conscience, qu'il sait tout et qu'il ne nous abandonne pas, ça ne donne pas automatiquement la paix. Il y a un combat. On a besoin d'aller concrètement à Jésus et de dire, Jésus, là, je le sais que tu es là, mais je ne le ressens pas, je ne le vois pas. Dans mon cœur, ça ne fait pas de différence. Pour obtenir la paix de Dieu, pour que le Dieu de paix garde nos cœurs en paix. On a besoin de venir à lui, de lui donner nos inquiétudes, nos fardeaux, nos craintes. On a besoin d'en prendre conscience. On a besoin, dans la prière, de les nommer, de les dire, de dire ce que cette situation fait à nos cœurs, comment on est alarmé, on est troublé. Les disciples ont même dit à Jésus, « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » C'est comme si nous autres, on s'inquiète, puis Jésus, pourquoi? Pourquoi t'as pas peur, toi aussi? Soucie-toi un peu de nous, puis aie peur. Jésus a répondu, « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Un petit reproche, mais en même temps, une occasion d'enseigner, une occasion de rassurer, une occasion d'apprendre à saisir la paix de Dieu au milieu des épreuves. Pour que les disciples dans la barque demandent à Jésus, il a fallu qu'ils ont attendu un certain temps. Hein? Et comme un peu dans nos vies, on attend que ce soit gros. Les vents ont commencé, la pluie, les vagues, l'eau qui rentre. Hey, là, on pense qu'on a atteint notre niveau critique. Là, on va réveiller Jésus. Jésus, réveille-toi, regarde, on va couler. On est comme ça, hein? Jésus est avec nous, on pourrait lui faire appel dès le début, mais on attend, parce qu'eux, ils étaient des pêcheurs, c'était leur métier pour la plupart, donc ils en avaient vu d'autres. Et nous aussi, on est capable, on en a vu d'autres, c'est pas grave. On endure, on supporte. Tant qu'on est capable, et il vient un point où c'est trop, et là, la barque est pleine d'eau. Quand est-ce qu'on devrait faire appel à Jésus pour retrouver la paix? Hein, ça dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. On a besoin d'apprendre à venir à Jésus aussitôt que notre cœur est un peu alarmé. S'il y a une situation qui ne nous dérange pas trop, ben continuons, puis allons-y. Mais quand ça commence à troubler, à inquiéter, pourquoi attendre que ce soit gros, trop gros? On est des petits moutons qui ont besoin tout de suite de se réfugier auprès du berger. On est des petits enfants devant notre Père céleste qui... qu'on dit, « Papa, j'ai peur. » On a besoin d'apprendre à se réfugier dès le départ, dès que notre cœur est troublé. C'est notre problème. On veut être capable de gérer les situations. On le fait et sans s'en apercevoir, on a un lourd fardeau. Jésus, il veut qu'on aille à lui pour se libérer de ses fardeaux. Aucun problème n'est trop petit pour Jésus. Aucun sujet d'inquiétude n'est trop insignifiant pour lui. Oh, je ne dérangerai pas le Seigneur avec ça. Hein? Il y a tellement de requêtes. Je vais être capable. Je me sens ridicule de prier le Seigneur pour une chose, pour un si petit problème. L'important, ce n'est pas la grosseur du problème, mais la grandeur de l'inquiétude. Et quand notre cœur est troublé, que la cause soit grosse comme ça ou tout petite, c'est le temps d'aller à Jésus. Jésus ne trouve jamais qu'on le dérange quand une chose nous trouble et nous inquiète. Il désire qu'on ait constamment ce réflexe de trouver notre paix en lui. quand il s'inquiète même, certains qui se réjouissent qu'on aille à lui pour trouver la paix. Avec le passage de base, Philippiens 4, 6 à 7, pour terminer, on veut faire un amalgame, mettre les deux textes ensemble et voir tous les points qui se rejoignent pour, d'une façon concrète, qu'est-ce qu'on fait pour avoir la paix en Dieu? Comment ça se passe? On va avoir trois étapes simples. On va commencer par lire Matthieu 11, versets 28 à 30. Jésus qui parle, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Première des choses qu'on veut faire, qu'on a besoin de faire, qui était dans Philippiens, qui est dans ce passage-là, c'est de venir à Jésus. Jésus qui dit, « Venez à moi. » Reconnaître son besoin, réaliser, comme dit le passage, qu'on est fatigué, qu'on est chargé, qu'on est dans la peur, qu'on est dans l'anxiété, on a perdu la paix de Dieu. Faire ce pas pour trouver la solution en Jésus. Faire ce pas pour dire, Seigneur, oui, je te priais là, d'une façon superficielle, un peu avant le repas, puis je disais, Seigneur, toi, des deux, trois situations, mais là, j'ai besoin de faire un pas réel, un pas de foi où je fais l'action de te donner mes fardeaux. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. On a besoin aussi, en venant à Jésus, d'accepter que Jésus permette cette situation dans vos vies. Je ne sais pas pour vous, quand il arrive vraiment des situations qui m'enlèvent la paix, le sentiment premier que j'ai n'est pas la peur, ou l'angoisse, ou l'anxiété. Le sentiment premier, hein, je parlais du thermomètre, ce que je ressens en premier, c'est la colère. Parfois même une colère envers Jésus. Mon Dieu est tout-puissant. Mon Dieu est au contrôle de toutes choses. Et mon Dieu m'aime. Et là, mon cœur ne veut pas s'avouer, mais je suis inquiet, je suis anxieux, mais je suis surtout en colère que Jésus permette ça dans ma vie. Et pour retrouver la paix avec Dieu, j'ai besoin de lui confesser. Seigneur, je ne voudrais jamais te dire ça, mais je réalise que je ressens de la colère face à toi. Et je veux te confesser ça. Et ça vient d'un manque de lâcher prise. Ça veut dire que je tiens les brides de ma vie et je veux continuer à les tenir. Je pense que j'ai le contrôle sur ma vie. Puis si tu amènes quelque chose que moi, je ne veux pas qu'il rentre dans ma vie, bien Seigneur, je me sens bloqué dans mon but, dans le contrôle de ma vie. Et là, j'ai besoin de te confesser. Seigneur, c'est pas moi qui ai le contrôle. C'est toi, puis tu es bienveillant envers moi. Donc, Seigneur, je veux confesser ce sentiment de colère. Et souvent, la colère va être aussi envers les gens qui provoquent, qui eux sont les acteurs humains sur la terre, qui provoquent cette situation. On leur en veut de dire des choses, d'agir d'une façon, d'avoir des attitudes qui vont tellement créé d'anxiété, puis de peur, puis d'incertitude dans nos vies. On est en colère contre eux, puis des fois, on a raison. On a besoin d'aller à Jésus, de laisser tomber le contrôle, briser notre résistance humaine, venir avec Jésus, avec foi, de dire là, je mets complètement ma confiance en toi, et avec humilité, en reconnaissant notre besoin et notre incapacité. C'est la paix de Dieu, c'est la paix de Jésus. C'est auprès de lui. Et c'est des fois, c'est plus qu'en faisant une petite prière où on donne la situation puis on ne prend pas la peine de venir à Jésus. Jésus est là, nous invite, viens à moi. Il faut que ça se passe avec Jésus. Deuxième point, se décharger sur Jésus. On va à Jésus et là, d'une façon un peu plus précise, même technique spirituellement, comment on fait pour se décharger sur Jésus? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, nous dit Philippiens 4. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, nous dit 1 Pierre 5-7. Donnez notre fardeau à Jésus. Notre joug trop lourd à porter, puis prendre son joug à la place. Son joug qui est doux et léger. On sait que le joug, c'était ce que les animaux, spécialement un bœuf, là, les bœufs qui étaient dans le champ, qui faisaient le travail agricole, eux, il y avait un joug. Et si le joug était mal ajusté, ça causait des blessures à l'animal. Un âne qui portait du matériel, c'était extrêmement lourd. Hein? On appelait ça un bas. C'est là que l'expression, c'est là que le bas blesse. Si le bas, le joug, était mal ajusté, ça causait des blessures. Puis pour moi, un joug, ça a une connotation très personnel, parce que je fais beaucoup de canots et de portage de canots. Hein. Des fois, je vais à un lac, puis pour y aller, ça va être 4,5 kilomètres en plusieurs sections de joug. Et si notre joug nous fait mal, s'il est mal ajusté, là, hey, c'est ce qu'on se souvient le plus, comment ça a été dur. Jésus, n'enlève pas le fardeau, n'enlève pas la situation, n'enlève pas le joug. Il nous dit de prendre son joug. Parce que de la façon qu'on porte, qu'on vit la situation, c'est lourd, c'est pesant, ça cause du stress, de l'anxiété à notre cœur. Puis Jésus dit, je ne changerai pas les circonstances. Mais si tu me fais entrer dans l'équation, dans la situation, je vais t'enlever ce qui fait mal, ce qui fait souffrir ton cœur, puis je vais te donner ma compréhension de la situation, mon action. Je vais être à l'œuvre qui fait que tu vas être dans la situation, puis tu vas dire, la situation n'a pas changé. Je l'ai encore sur les épaules, mais ce que j'ai sur les épaules, c'est, hey, je peux continuer en ayant la paix du cœur, se décharger. La situation, l'épreuve, la difficulté est toujours là, mais tout à coup, c'est supportable. C'est presque agréable. Et ça, quand ça se passe, c'est extraordinaire, parce qu'on vit le repos de l'âme. Hein, dans notre passage, Jésus dit, « Venez à moi, prenez mon joug, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » C'est ce que nos cœurs lourds et affligés ont besoin. Troisième étape, recevoir et suivre les instructions de Jésus. Dans le passage au verset 28, Matthieu 11, 28, « Prenez mon joug sur vous. » Oui, son joug est léger. Mais il ajoute, « Et recevez mes instructions. » Ça fait penser avec le mandat pour faire des disciples. Hein? Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est croire aux vérités de Jésus. Hein? Ça revient à l'objet de nos pensées. C'est accepter l'enseignement de Jésus. Et l'enseignement de Jésus par rapport à la paix, c'est que la somme de notre obéissance, la somme de notre capacité à observer et surtout à mettre en pratique les instructions, les prescriptions, les directives de Jésus va nous amener à cette paix. Recevoir les instructions, c'est premièrement connaître ce que Jésus a à nous dire. C'est croire, c'est mettre en pratique. Quand on est devant des inquiétudes, des situations qui sont trop grandes pour nous, on se réfugie, on évite, on reste dans nos raisonnements humains, on s'en prend à tout le monde. Hein? Quand on vit de la tension, là, le gars qui te bloque sa route, là, normalement, tu es bien patient. Mais là, là, tu t'en prends à lui. Puis là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le petit commis de 16 ans là, chez IGA, pourquoi il a subi ma colère comme ça? Ah, Seigneur, tu vois, j'ai un immense fardeau. Puis je ne suis pas allé à toi. J'ai juste continué à le vivre. Voici ce que dit notre Jésus face au fardeau. Vous vivrez des difficultés qui seront des sources d'inquiétude. Puis je vais vous donner la paix au milieu des difficultés. C'est ça, ces directives. Ça va être une paix spirituelle, surnaturelle, malgré les circonstances. Les directives de Jésus, c'est d'aller à lui et de demander la paix de Dieu. Dire oui, Jésus, et le faire, le mettre en pratique. Je ne connais pas votre situation pour chacun. Peut-être que vous dites, bien, ce message-là, il va être bon pour quand je vais être dans une situation future, parce que présentement, ça va bien. C'est le meilleur temps de recevoir les instructions de Jésus quand on n'est pas en situation de crise. On peut se préparer et quand l'épreuve va arriver, on va être prêt. Mais peut-être que vous êtes dedans. Ne dites pas à Jésus, « Jésus, c'est correct, je suis encore capable de le supporter. Ça va, je le tiens à bout de bras, puis je suis capable encore. » Venez tout de suite à Jésus. Dites-lui que vous ne voulez pas attendre. Vous ne voulez pas attendre que votre cœur soit encore plus fatigué, encore plus lourd, encore plus chargé. Amenez vos fardeaux à Jésus dès maintenant. On veut prendre un temps dans la prière. Seigneur Jésus, dans la parole, tu nous dis que le Dieu de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Et Seigneur Jésus, on vient devant toi. On veut faire ce pas, cet effort de concentration. On veut être là et Seigneur, te dire, te confesser, t'énumérer ce qui nous prive de ta paix. Seigneur Jésus, tu es là. On veut répondre à ton invitation. On veut aller à toi. On veut faire cette transaction où on te dit qu'on n'est plus capable de porter ce joug, ce fardeau, ces inquiétudes, ces soucis trop grands pour nous. Seigneur Jésus, la situation ne changera pas du jour au lendemain, mais ce qui peut changer dès maintenant, c'est qu'on se décharge sur toi et on prend ton joug. Seigneur, on veut t'impliquer dans la situation. On veut reconnaître que tu es là, que tu te soucies de nous, que tu vas nous donner cette paix intérieure. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta paix. Merci parce que tu te soucies de nous. Merci parce que tu nous invites à venir à chaque instant. Seigneur, je te prie que tu puisses donner ta paix à chacun de tes enfants qui sont ici. Que tu puisses les visiter d'une façon tout à fait spéciale. Seigneur Jésus, tu vois ta famille au Québec, de ton peuple qui a vécu différentes épreuves tout au long des derniers mois. Seigneur Jésus, plusieurs sont épuisés, sont fatigués. Qu'ils puissent venir à tes pieds, se décharger de leur fardeau, de ces poids, de ces inquiétudes, de cette anxiété, Seigneur Jésus. On veut être un peuple qui te supplie, qui lutte dans la prière, qui se décharge sur toi. Merci, Jésus, de cette paix qui est en toi et qui dépend de toi. Gloire à toi, Seigneur. Amen.
Amen.
Merci.